Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. La Hongroise Judith Polgár est sans doute la plus grande joueuse d'échecs de l'histoire et elle nous dit ceci. Il faut faire entrer les échecs dans les écoles, ils donnent des outils dans la vie, la logique, la résilience, savoir trancher, accepter une défaite, maîtriser l'euphorie d'une victoire, ça rend plus fort. Et si les échecs étaient également une école de la vie, avec le succès planétaire de la série Le Jeu de la Dame, ce jeu multimillénaire, sans doute né en Inde, connaît un formidable regain d'intérêt avec des jeunes et des femmes notamment qui deviennent des pousseurs de bois, comme se dénomme lui-même l'un de nos invités, Denis Grosdanovic. Nous verrons ce matin pourquoi les échecs sont une formidable école de l'intuition, que contrairement à certaines idées reçues, les grands mathématiciens ne font pas forcément les meilleurs joueurs d'échecs, et puis nous verrons quelles sont les vertus du jeu en général, ce jeu qui nous reconnecte à notre enfance, car comme le remarquait le philosophe Schiller, l'homme n'est pleinement lui-même que quand il joue. Et vous, racontez-nous ce que le jeu d'échecs vous apporte dans l'existence. Et si vous êtes allergique à ce jeu, n'hésitez pas à laisser vos témoignages au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main vous fasse. Et rassurez-vous, si comme votre humble serviteur, vous n'y comprenez strictement rien aux échecs, nous allons vous expliquer les règles fondamentales. En fin d'émission, vous retrouverez la chronique Pas son genre de Julia Foyce qui s'intéressera aux fausses plaintes pour viol. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Bonjour Denis Grosdanovic, bienvenue dans cette émission.
Oui, bonjour.
Vous êtes ancien tennisman professionnel, écrivain, grand amateur d'échecs. Je me souviens avec bonheur de votre petit traité de désinvolture et vous publiez chez Grasset La vie rêvée du joueur d'échecs. Bonjour Bernard Werber.
Bonjour.
Romancier, vous avez récemment publié chez Albin Michel La planète des chats et vous êtes également un grand amateur d'échecs. Bonjour Kevin Bordy.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de la chaîne YouTube Blitz Stream, consacrée aux échecs, et vous auriez pu devenir professionnel, c'est ça? Si vous aviez voulu?
Il manquait un tout petit peu de niveau pour y arriver. J'étais du mauvais côté de la barrière.
Kevin Bordy, imaginons que j'ai 7 ans, je ne connais absolument rien du jeu d'échecs. Racontez-moi les règles, les protagonistes, le terrain de jeu. La seule chose que je sais, c'est qu'un échiquier possède 64 cases et 32 pièces.
Donc oui, le jeu d'échecs, c'est un jeu qui se joue à deux, donc un contre un, sur un plateau qu'on appelle un échiquier, donc qui comporte 64 cases, 32 cases blanches, 32 cases noires. Les deux joueurs ont 16 pièces chacun, dont un roi, et l'objectif, ça va être d'aller manger, attaquer et gagner le roi adverse.
Et vous, Denis Grosdanovic, comment définiriez-vous les échecs? Un enfant qui nous écoute peut-être ce matin, cette période de vacances?
Non, je vais d'abord dire à Kevin Bordy que je suis toutes ces leçons sur Internet. Il est excellent, hein, vraiment excellent.
Merci. Je
regarde ses parties. Il fait les parties en 10 minutes devant nous en nous expliquant comment il faut jouer ou ne pas jouer et tout ça. Il est vraiment un pédagogue formidable. Alors, je suis content de le rencontrer par.
Et c'est pour cela qu'on l'a invité.
Merci
oui.
À vous.
Donc, Denis Grosdanovic, comment expliqueriez-vous les échecs à un enfant?
Un enfant, il faut commencer par lui expliquer les règles d'une manière, si possible, le plus attrayante possible, ce qui n'est pas forcément évident. Bon, enfin, bon, ce qu'il y a d'extraordinaire, ce que j'explique dans mon livre, c'est que les enfants très doués aux échecs, on n'a pas besoin de leur apprendre. Ils regardent et en quelques séances, ils ont compris eux-mêmes les règles. C'est assez étonnant.
Bernard Werber, quelle est votre définition personnelle du jeu d'échecs?
Le jeu d'échecs, c'est une représentation de la vie. C'est-à-dire que quand on regarde une partie, on voit le destin d'un groupe de pièces, mais ça va ressembler à notre vie. Donc je crois que quelqu'un qui sait jouer aux échecs va savoir bien vivre, et quelqu'un qui comprend que tout est stratégie, parce que tout est stratégie, même préparer un plat de cuisine, c'est de la stratégie, et les échecs vous aident à être un stratège. Mais votre situation familiale, votre situation professionnelle, votre situation dans le monde scolaire peut se rapporter à une situation de pièces d'échecs, et c'est en ça que c'est une manière de regarder le monde en ayant l'impression de le contrôler.
Vous êtes d'accord avec ça, Denis Grosdanovic?
Oui, mais en même temps, il n'y a pas que de la stratégie. il y a la tactique. Et d'ailleurs, c'est ce que j'explique dans mon livre, la différence entre la stratégie et la tactique. La plupart du temps, les gens connaissent pas la différence. La stratégie, c'est le plan d'ensemble. Hein. On va attaquer sur l'aile gauche ou sur l'aile droite. Et c'est plus ou moins intuitif. Il faut avoir une grande intuition. Par contre, pour bien réaliser cette attaque, il faut de la tactique. C'est-à-dire, est-ce qu'on va lancer d'abord l'infanterie ou la cavalerie, voilà. Et aux échecs, est-ce qu'on attaque avec les pions ou plutôt avec les fous, enfin bon, ou avec les cavaliers. Donc, en fait, il faut les grands joueurs d'échecs allient les deux. Mais c'est pour ça que, comme vous l'avez expliqué, les gens qui ont été trop formatés aux mathématiques ne sont pas bons aux échecs en général, parce qu'ils ne sont bons que... Ils font tout sur le calcul, donc sur la tactique, et pas assez sur la stratégie.
Il y a une dimension psychologique, en effet, il a raison de le rappeler, qui est au-delà juste des mathématiques. Et moi, je sais que quand je démarre une partie, juste sur l'ouverture, je sais à qui j'ai affaire en face. Et je perçois, il y a une sorte de télépathie, je perçois comment on va communiquer tous les deux.
Absolument,
ouais. Kevin Bordy, comment êtes-vous tombé dans la passion pour les échecs?
C'est mon père qui m'a appris lorsque j'étais enfant, j'avais une Game Boy pour ceux qui se rappellent de ce fameux objet. Donc jouer sur une Game Boy, j'avais tout un tas de jeux dessus, mais le jeu qui m'attirait le plus et qui me donnait le plus envie, c'était ce jeu d'échecs. Donc j'essayais empiriquement d'apprendre les règles en essayant d'apprendre comment se déplacent les pions, en jouant contre l'ordinateur, en voyant ce que j'avais le droit de faire ou pas. Et un jour, mon père m'a appris à jouer aux échecs, et ça a été direct et automatique, en fait.
Je
tombe amoureux du jeu.
Et vous, Bernard Werber, comment est née cette passion pour les échecs?
C'est moi aussi, mon père. Il apprenait à ma sœur, et du coup, je me suis dit, je suis privé de leçons d'échecs. Et c'est devenu un énorme désir d'apprendre comment ça fonctionnait. À partir de là, j'ai commencé à m'inscrire dans une école. J'ai fait la compétition. Et puis, un jour, je suis tombé sur un joueur d'échecs professionnel, et il était tellement plus fort que moi, j'ai tout arrêté, et je suis devenu un simple joueur du dimanche. Vous savez, il y a un moment, c'est comme au tennis ou dans d'autres sports, il y a une dimension au-dessus dans laquelle vous ne pouvez plus accéder. Il y a le petit jeu, le jeu normal, le jeu amateur, mais le jeu professionnel, c'est des fous. C'est des fous dingues. Donc là, j'ai eu un contact avec un de ces fous dingues. Je me suis dit, ok, je m'arrête, je vais rester au stade amateur.
Denis Grosdanovich, c'est également votre père qui vous a donné le goût des échecs. Je vous cite, « J'avais franchi le pas d'un domaine enchanté dont il me serait difficile de me déprendre. »
Oui, absolument. Et vous savez, ça se rapporte d'ailleurs au livre, le meilleur livre sur les échecs. Enfin, il y en a deux dont je parle dans mon livre, le joueur d'échecs de Stefan Zweig, qui, à mon avis, est pas tout à fait excellent dans la mesure où c'est absolument impossible qu'un joueur qui s'entraîne tout seul pendant des années dans une prison puisse ensuite rivaliser avec un des meilleurs joueurs du monde. Ça, c'est une impossibilité. Mais
vous
connaissez pas assez bien les
échecs.
Oui,
Kevin Bordy, on vous entend là. Oui, vous vouliez dire, Kevin
Bordy? Oui, je voulais intervenir. Je voulais dire que Alekhine, le champion du monde franco-russe, s'est entraîné pendant des années dans une prison avec d'autres joueurs d'échecs tout de même.
Oui, d'accord, mais je veux dire que pour être, si l'on n'est pas au courant de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on est quand même reliés les uns les autres par un tissu conjonctif spirituel qui fait que si on n'est pas au courant de ce qui se passe, on peut pas arriver, enfin bon, peu importe, c'est une question un peu technique. Mais la question, c'était, oui, je me souviens plus de la question.
Sur le fait que vous soyez tombé dans ce domaine enchanté dont il vous semblait difficile de vous déprendre.
Ah oui, alors je voulais faire allusion à Nabokov, dans la défense Lougine. Lougine, la première fois qu'il voit un jeu d'échecs, il a une espèce de coup de foudre spirituel. Et moi, ça a été mon cas aussi. Et pourtant, j'ai joué au tennis, mais les échecs m'ont paru encore plus riches.
Alors, vous êtes un mordu d'échecs. Vous écrivez que vous êtes saisi par une addiction incoercible au sortilège des 64 cases.
Ah oui, parce que à l'époque, je vivais en donnant des leçons de tennis le matin, et puis j'allais à 14h à mon club d'échecs, et j'en sortais à minuit. Et le reste du temps, j'étudiais. Et je suis tombé dans une addiction terrible dont la poésie m'a sauvé, heureusement, parce que je n'aurais pas voulu devenir un de ces addicts, comme j'en ai rencontré beaucoup.
Pourquoi ?
Parce que ce sont des autistes. Vous savez, la plupart des grands joueurs d'échecs sont des Asperger. Et vous savez, le syndrome d'Asperger. Et donc, ce sont des gens qui sont complètement isolés du monde. Ils sont en fait handicapés. Alors, ils sont très intelligents dans un domaine, mais complètement inaptes au reste. Et la plupart des grands maîtres d'échecs, j'ai rencontré un certain nombre, font partie de cette... Sauf Kasparov.
Alors attention à l'utilisation du terme autiste, hein, qui peut parfois peut-être choquer certains de nos auditeurs atteints par le syndrome du spectre autistique. Bernard Werber.
Oui, je veux dire, on s'est aperçu que les joueurs d'échecs normaux même, au moment où ils jouent, n'entendent pas les bruits extérieurs. Donc c'est-à-dire qu'on est tellement concentré sur le jeu que tout ce qui se passe à l'extérieur disparaît. C'est une forme de méditation. C'est-à-dire tout d'un coup, on est coupé du monde. Si ce monde vous plaît pas, faites une partie d'échecs, tout d'un coup, vous échappez à ce monde. Et je voulais aussi dire une chose, c'est que c'est mon père qui m'a appris à jouer aux échecs, mais le jour où je l'ai battu, il n'a plus voulu jouer. Et donc, je crois que j'ai réglé mon Œdipe à travers les échecs, et j'ai appris très vite à mes enfants aussi, à mes deux garçons, à jouer aux échecs, et je sais que le jour où ils me battront, il va se passer quelque chose d'œdipien entre nous.
Alors, vous vouez, Denis Grosdanovic, un culte à Alice au Pays des Merveilles, de Lewis Carroll, et dans Alice au Pays des Merveilles, et plus particulièrement dans le second volet
à travers le miroir,
voilà. Les pièces de l'échiquier, on le voit, possèdent des caractères humains, et je vous cite, le jeu d'échecs est encore plus que le sport un puissant révélateur du caractère personnel de chacun.
Oui, c'est ce que je raconte dans le livre, c'est que personnellement, j'ai donc arrêté pendant 10 ans après, parce que je voulais plus revenir à cette addiction. Et quand je passais dans une rue de Paris où il y avait un cercle d'échecs, je faisais un détour comme les alcooliques pour ne pas entrer. Et bon, et j'ai repris 10 ans plus tard en me disant, je vais un peu m'auto-analyser à travers ça. Et donc, comme j'ai toujours été l'homme des carnets de notes, je prenais des notes sur mon retour. Et je me suis aperçu d'une chose très intéressante, c'est que quand j'arrivais en milieu de partie, j'avais toujours l'impression d'avoir une position dominante alors que c'était pas le cas. Puisque en général je perdais très vite après, et je me suis rendu compte très vite que j'avais tendance à surestimer ma position tout le temps, et au bout du compte je souffrais de ce qu'on appelle un complexe de supériorité. Mais en fait, Adler, j'avais essayé de lire le livre d'Adler qui traite du complexe de supériorité. Il explique que le complexe de supériorité n'existe pas, c'est toujours un complexe d'infériorité surcompensé. Et donc je me suis rendu compte de ça, et en fait mon intuition me montrait bien que j'étais en position inférieure. Mais ce fameux idéal du moi de la psychanalyse faisait que j'avais pas envie de le confronter à la réalité. Et donc, à chaque fois, j'avais cette illusion d'être en meilleure position. Et donc, ça m'a amélioré dans la vie. Et surtout par rapport à mes interlocuteurs, quand quelqu'un n'était pas d'accord avec moi, j'avais tendance à le mépriser. Et ça m'a appris à respecter un peu mieux les gens.
Est-ce que vous avez du mépris pour ceux qui n'y comprennent rien au jeu d'échecs comme moi?
Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Je dirais même que d'une certaine façon, c'est peut-être c'est une chance par un certain côté.
Pourquoi?
Ben justement parce que c'est un jeu tellement prenant qu'on peut très vite.
Il y a une addiction.
Oui, une addiction très très rapide.
Une assuétude, comme vous le dites dans le livre.
Oui, hein. Ça, c'est un vieux mot que j'ai retrouvé.
Kevin Bordy, pour vous, il est possible de déterminer le caractère d'un joueur à partir de sa manière de jouer?
Pour moi, dans mon idée, on a en fait deux caractères, entre guillemets. On a un caractère dans la vie de tous les jours et un caractère en tant que joueur. Je sais que moi, n'importe quel jeu auquel je joue, je vais avoir exactement le même style qu'aux échecs. C'est terrible. Surtout dans les jeux où je joue mal, mais j'ai l'impression que ça se retranscrit pas vraiment dans mon caractère de tous les jours. Après, comme je suis joueur plus ou moins professionnel, entre guillemets, ça crée peut-être des petites différences aussi.
Bernard Werber.
Oui, tout à l'heure on parlait d'Alice au Pays des Merveilles. Il faut voir que Alice au Pays des Merveilles est lui-même conçu sur une partie d'échecs célèbre de l'époque. C'est-à-dire que tout le roman, les déplacements des pièces et de tous les personnages correspond aux déplacements d'une partie d'échecs célèbre. Et il faut savoir aussi, par exemple, que Flaubert, quand il écrivait ses romans, l'utilisait en échiquier pour voir les déplacements de ses personnages. Et moi-même, j'utilise le jeu d'échecs pour faire les mouvements de mes personnages. Ça aide à écrire des romans. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Alors, Denis Grosdanovic, dans votre livre, vous vous demandez s'il est possible d'appliquer l'enseignement tactique et stratégique des échecs pour conduire sa vie. Le génie des échecs, Garry Kasparov, a d'ailleurs écrit un livre à succès, La vie est un jeu d'échecs. Oui. La vie, c'est un jeu d'échecs ou pas du tout?
C'est d'ailleurs, ce livre a été traduit par ma femme, alors donc, Donc je l'avais relu pour... oui. Non, pour moi, la vie n'est pas un jeu d'échecs. C'est ce que j'explique dans le livre. Kasparov, il vit aux États-Unis. Il a fait une espèce de livre sur le développement personnel. Mais en réalité, à mon avis, c'est très différent, justement, parce que dans la vie, il y a beaucoup d'autres paramètres qui interviennent. Et si on conduit sa vie comme un jeu d'échecs, à mon avis, on va à la catastrophe.
Vous êtes d'accord, Kevin Bordy?
Ouais, tout à fait, ouais. Les échecs, ça peut aider à prendre des décisions, mais la vie ne ressemble pas vraiment aux échecs. On connaît pas tout ce qui se passe, tous les éléments dans la vie, contrairement à un échiquier.
Quel type de décision, Kevin Bordy?
Ça permet, je dirais, les échecs de penser aux conséquences, de penser plus loin lorsqu'on prend une décision. C'est-à-dire d'avoir l'habitude d'avoir une chaîne de conséquences, de cause à effet, qui va être plus poussé. C'est-à-dire, si je fais ça, il va se passer ça, et s'il se passe pas, il se passera autre chose. Et on va dire que ça me permet de mieux voir les conséquences de mes actes, et aussi de prendre plus de temps avant de prendre une décision, parce qu'une fois que la décision elle est prise, comme sur un jeu d'échecs, une fois que le coup est joué, on peut pas revenir en arrière. Donc ça permet de mieux se poser avant de prendre une décision importante, et de peut-être avoir plus l'habitude d'en évaluer les conséquences.
Bernard Werber.
Moi, je pense qu'une partie de la vie est comme un jeu d'échecs, mais exactement comme il le disait, le jeu d'échecs permet de voir dans le futur. C'est-à-dire, on se dit, ce mouvement va entraîner ce mouvement, qui va entraîner ce mouvement, et au bout d'un moment, ça donne une vision permanente. C'est-à-dire que quand on a une décision à prendre, on sait que cette décision va s'enchaîner sur d'autres événements, et on perçoit une sorte de profondeur dans le temps de tous nos actes.
Et oui, la grande qualité des grands joueurs d'échecs, c'est l'anticipation, Denis Krozanovitch.
Oui, alors là, même intervient, à mon avis, et moi, je sais que des gens sont un peu choqués par ça, mais le côté un peu paranormal, c'est-à-dire le côté un peu médiumique. Ça, je l'ai connu en sport aussi. Vous savez, il arrive très souvent quand j'étais... Vous savez, pendant un temps, j'étais champion de France de squash, et donc je jouais à mon niveau. Et donc, parfois, quand j'allais en Angleterre, il y avait un Égyptien qui me proposait une partie, comme ça, je ne le connaissais pas. Et je rentrais sur le court, et en fait, souvent, il faisait ça pour me piéger, parce que le type était très fort. Eh bien, quand vous commencez à échanger des balles avec quelqu'un qui est très fort, il y a une espèce d'aura qui fait que vous sentez qu'il se passe quelque chose d'incroyable. Vous sentez quelque chose. Et alors, c'est la même chose quand vous asseyez en face d'un adversaire aux échecs que vous ne connaissez pas. Et parfois, il y a des vieux joueurs qui reviennent jouer et qui ont été très forts. Eh bien, dès le moment où vous commencez à jouer en face de lui, vous avez l'impression que votre esprit est bloqué. Et ça, c'est très intéressant.
Je dois dire, j'ai eu la chance de jouer contre Karpov. Il y avait un salon du livre où il y avait une rencontre entre les écrivains et Karpov.
Rappelez qui était Karpov.
Champion du monde battu par Kasparov, justement. Et d'abord, son attitude était étrange. Donc, on jouait à 12 contre 1. Donc, chacun à tour de rôle, on jouait. Et j'ai vu... Il étranglait les gens. C'est-à-dire, il arrivait, il tue une personne, il passe au suivant, il tue une personne, mais il y a une volonté de mort. Il y a une énergie chez certains joueurs, il y a un côté meurtrier. Et je me rappelle, ma compagne Amélie m'a dit, juste, essaie de tenir le plus longtemps possible et essaie de sourire. Et j'ai vu tous les autres grimacer de douleur au fur et à mesure qu'ils jouaient contre lui. Et finalement, j'ai pu tenir, j'ai pu résister en dernier, tout simplement parce qu'aussi j'avais renoncé à gagner. Il y a une autre chose, on peut jouer sans avoir envie de gagner, mais juste pour la beauté du jeu. Pour que ça soit comme une sorte de petit film. Et j'étais très surpris de résister le plus longtemps. Et à la fin, il m'a dit, vous savez, mon secret, c'est que depuis l'âge de 4 ans, je fais 10 parties par jour. Donc 10 parties par jour. Imaginez comment l'esprit peut être tourné. Il doit avoir plus de 70 ans. 10 parties par jour depuis sa naissance. Ça veut dire qu'il ne pense que échec. Donc on n'avait aucune chance, aucun d'entre nous.
Dans quelques instants, vous verrez comment le jeu d'échecs peut nous rendre heureux. Vous saurez tout dans quelques instants. Julien Macarez et Céline Dubois monté d'a préparé cette émission. À la technique ce matin, Anne-Laure Cochet et Tiffany Battistel. La réalisation est signée Claire Destacan et la programmation musicale Muriel Pérez. Et on écoute France Gall, Samba Mambo.
toi.
Interprété Samba Mambo.
L'importance au jeu d'échecs est la manière.
Grand bien vous fasse.
Les grands joueurs d'échecs, ils ne rêvent pas de gagner, ils rêvent de la manière, ils rêvent de plus de beauté.
Sur France Inter.
10h26 et ce matin, comment les échecs peuvent nous aider dans la vie avec les écrivains Denis Grosdanovic, Bernard Werber et avec le youtubeur Kevin Bordy. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000. Alors j'aimerais à nouveau citer la génie des échecs, Judith Polgar, qui disait donc récemment sur la chaîne américaine CNN, il faut faire entrer les échecs dans les écoles, ils donnent des outils dans la vie, la logique, la résilience, savoir trancher, accepter une défaite, maîtriser l'euphorie d'une victoire, ça rend plus fort. Vous êtes d'accord avec Judith Polgar, Kevin Bordy ?
Oui, j'ai eu la chance d'enseigner les échecs dans des écoles primaires en Suisse, à Genève. Mmh. Et j'ai pu remarquer en discutant avec les professeurs que les échecs avaient aidé les enfants dans leur parcours. Enfin, pas tous, mais certains. Et oui, je suis assez d'accord. J'ai pu remarquer par mon expérience que les échecs apportaient beaucoup de capacité face aux problèmes qu'on peut rencontrer non seulement à l'école, mais aussi dans la vie.
Denis Grosdanovic, je rappelle que vous publiez La vie rêvée du joueur d'échecs.
Eh bien, moi, je pense que oui, comme Kevin, que ça nous apprend surtout la circonspection. Mm. C'est-à-dire, on apprend que dans la vie, les gens peuvent avoir des ressources incroyables parce que quand on fait une partie longue aux échecs, hein, je parle pas du blitz hein, qu'on pratique tous un peu maintenant sur internet, les parties soit en 5 minutes soit en 10 minutes, mais une partie longue, c'est-à-dire maintenant c'est à peu près 1h30 plus 30 secondes chaque coup joué, on apprend que même quand on pense avoir gagné, il y a des ressources presque infinies, et ça dans la vie c'est très utile de savoir que on n'a jamais complètement gagné quoi que ce soit, donc voilà, on n'a jamais complètement réussi. D'ailleurs, ça rejoint les principes zen. On ne peut jamais penser qu'on a complètement échoué ni complètement réussi.
Bernard Werber, romancier, amateur d'échecs.
D'abord, il suffit de regarder une école pour enfants d'échecs et on va voir, ils sont tous calmes. Ils sont calmes et ils sont passionnés. Et que peut-on souhaiter de mieux pour nos enfants qu'ils soient à un moment en train d'être concentrés, de réfléchir, d'être calmes et passionnés. Il y a deux mystères dans les échecs. Le premier, c'est que la pièce la plus forte, c'est la dame. Alors que normalement, vu que c'est censé représenter les royaumes médiévaux, c'est le roi qui normalement part à la guerre. Le roi, il peut pas bouger. Il fait des petits pas, il reste tranquille dans son château. C'est la dame qui fait tout. Donc déjà, la personne qui a inventé le jeu d'échecs, visiblement, était plutôt féministe. Et il y a une autre notion qui est intéressante, c'est que le pion, s'il arrive au bout du camp adverse, se transforme en dame. Ça aussi, personne n'a l'air de trouver ça extraordinaire, mais ça veut dire qu'un simple petit élément de la bataille, s'il parvient à faire un grand voyage, va se transformer pour devenir la pièce la plus puissante. Donc il y a une philosophie qui sort quand même du jeu d'échecs, qui est, ce n'est pas juste des pièces qui bougent, ce sont des pièces qui peuvent se transformer.
D'où l'expression « se faire damer le pion
». Voilà, exactement. Bonjour Bernard, bienvenue.
Oui, bonjour.
Vous êtes un ancien enseignant qui a fait jouer ses élèves aux échecs, c'est ça ?
Oui, bah, j'étais donc instituteur d'abord en Seine-Saint-Denis et donc j'ai enseigné le jeu d'échecs à mes élèves et puis on s'est rendu compte avec mes collègues très rapidement que cela permettait aux enfants de faire des progrès, ce que vous venez d'évoquer, et aussi de rencontrer d'autres enfants, forcément des fois issus de milieux plus favorisés, et eux sont, on se sont rendu compte qu'ils pouvaient progresser, qu'ils avaient des qualités égales à celles des autres enfants, et ça a permis à beaucoup d'entre eux de réussir dans la vie. J'en ai quelques exemples. Et disons que c'est un aspect du jeu qu'il ne faut pas oublier, plutôt que de parler seulement de cet aspect un petit peu élite, un peu trop intellectuel, le plaisir un peu personnel. Moi, je crois que ça doit permettre à tout le monde, et ça continue encore aujourd'hui, je suis à la retraite, mais je continue d'aller dans des écoles pour apprendre le jeu d'échecs. Et effectivement, les enfants, très rapidement, s'y intéressent. Ça fait travailler la mémoire, la logique, la patience. Les enfants reviennent au calme très rapidement et se passionnent. Et beaucoup de parents, des fois, s'en étonnent.
Tiens, restez avec nous, Bernard, parce que nous avons un petit garçon de 6 ans qui nous a appelé, Roméo. Bienvenue, Roméo.
Bonjour.
Ça va? Tout va bien?
Oui.
Tu es en vacances?
Ouais.
Bon, alors tu joues aux échecs?
Oui.
Alors explique-nous un petit peu, qu'est-ce qui te plaît dans ce jeu?
C'est parce qu'en fait, il y a de la technique, on doit réfléchir. Moi, j'aime beaucoup réfléchir. Et c'est que aussi, comme ça travaille la tête, après...
C'est...
En fait, je sais pas comment dire, mais
en tout cas,
j'aime beaucoup.
Ouais. Qui t'a appris, Roméo? Qui t'a appris à jouer?
Papa.
Ah, et encore un père qui apprend à jouer aux échecs. Et tu peux passer des heures à jouer aux échecs?
Oui. Ouais.
Denis Grosdanovic.
Oui. Non, c'est drôle. Ouais. Mais oui,
parce que dans votre livre, et Roméo reste avec nous, vous parlez de la précocité de certains enfants, et les grands génies, les grands maîtres des échecs sont souvent des enfants précoces dans le jeu d'échecs.
Ah oui, ça a été le cas de la plupart des grands joueurs. Hein, ouais. Ils ont je raconte l'histoire du fameux Samuel Reshevsky qui à 8 ans a fait le tour de l'Europe en battant la plupart des meilleurs joueurs. Et c'est quelque chose de tout à fait mystérieux, puisque je ne sais plus, peut-être que Kevin saura le dire, mais je crois que dès le huitième coup, je ne sais plus combien de millions de possibilités il y a déjà. Et comment se fait-il que des enfants de 7 ou 8 ans puissent être aussi forts, comme c'est le cas maintenant, actuellement, surtout en Inde? Il y a un fameux joueur qui a 12 ans, qui est un des meilleurs joueurs du monde, qui s'appelle Ramesh Babu Pranagnanda, et il est absolument prodigieux. Et comment se fait-il qu'il soit aussi performant à cet âge-là, sans aucune expérience? C'est un mystère.
Roméo, est-ce que tu arrives à battre ton père?
Oui.
Ah c'est très bien. Et il le prend bien, ça va?
Oui.
Bon, Kevin Bordy, vous avez une question peut-être à Roméo? 6 ans.
Est-ce que tu t'amuses quand tu joues aux échecs? Pour moi, c'est ça le plus important.
Bien sûr.
Est-ce que tu t'amuses, Roméo, quand tu joues aux échecs?
Oui.
Ouais. Qu'est-ce que tu ressens?
En fait, je ressens un peu comme si, enfin, je sais pas, je ressens un peu la concentration.
Ah oui. Bon, en tout cas, merci de nous avoir appelé, Roméo, et longue vie en jouant aux échecs. Et merci aussi, Bernard, de nous avoir appelé. Alors, je citais tout à l'heure Judith Polgar, c'est l'une des rares grands maîtres internationales. En 2002, c'est la première femme à avoir vaincu le numéro 1 mondial de l'époque, Garry Kasparov. Et c'est peut-être, et c'est un personnage féminin, hein, qui est à l'origine du regain d'intérêt planétaire pour les échecs. Il s'agit du personnage de Beth Harmon dans la mini-série la plus regardée sur Netflix, Le jeu de la dame. Je vous propose d'écouter un extrait.
Qu'est-ce que tu veux, petite? Tu devrais être dans la chapelle.
Comment s'appelle ce jeu?
Tu devrais être à l'étage avec les autres.
Je ne veux pas être avec les autres. Je veux savoir à quel jeu vous jouez.
Ça s'appelle les échecs.
Vous voulez bien m'apprendre ?
Je ne joue pas contre les inconnus.
Je ne suis pas une inconnue. Je vis ici. Je connais déjà une partie des règles. Je vous ai regardé.
Les filles ne jouent pas aux échecs.
Bonjour Xavier Le Herpeur, bienvenue.
Bonjour Ali Rebéi, merci.
Journaliste, producteur de l'excellente émission Une heure en série le samedi à 20h sur Inter. Quel est l'argument du jeu de la dame avec Anya Taylor-Joy? Le jeu de la dame adapté d'un roman éponyme de Walter Trevis.
Ben vous avez pratiquement tout dit, ça tient un peu sur un post-it, hein, c'est assez simple. C'est l'ascension d'une femme venue de rien quand même, qui était dans un orphelinat, qui a appris avec le gardien de cet orphelinat à jouer aux échecs et qui devient donc une grande championne. Elle ne bat pas que des adversaires masculins, elle bat également ses démons, ses traumas, et elle apprend à trouver sa place dans le monde grâce, entre autres, au jeu d'échecs.
Alors je n'y connais rien aux échecs, est-ce que je peux tout de même regarder le jeu de la dame sans m'ennuyer ?
Alors, je me permettrai de me prendre moi-même comme exemple. Ça n'est pas très modeste, mais vous savez que je ne le suis pas, de toute façon, naturellement. Je n'y connais rien. C'est un trauma d'enfance. J'ai essayé 1000 fois de comprendre ce jeu. Il m'a résisté. Je crois que ça n'est pas moi qui n'aime pas les échecs. C'est eux qui ne m'aiment pas. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé cette solution un peu facile pour m'y résoudre. Et c'est absolument passionnant, parce que, alors d'abord, les grands joueurs d'échecs ont tous attesté de la véracité des parties qui se déroulent dans la série, ce qui prouve quand même effectivement un soin particulier apporté à la véracité, à l'authenticité du jeu d'échecs. Ce qui est absolument passionnant, c'est de voir comment cette femme va se raccrocher au monde, va réussir à se battre elle-même, j'allais dire, grâce aux échecs, grâce au monde extraordinaire que cela ouvre. C'est formidablement mis en scène, puisque la nuit venue petite, elle s'y imagine jouant aux échecs et des pièces immenses semblent descendre du plafond et jouer avec elles. Donc il y a un monde comme ça, à la fois onirique, fantasmatique, fantasmagorique même, qui est effectivement, c'est les chevaliers, c'est la reine, c'est le roi. Et on va voir comment peu à peu elle va trouver sa place. C'est une série remarquablement écrite, remarquablement filmée, où tout le moindre détail est important, y compris, vous verrez si vous regardez cette série, ce que je vous recommande, les tenues de la jeune femme qui sont elles-mêmes pratiquement des échiquiers et des pièces d'échecs. Donc il y a une idée d'immersion comme ça absolue dans le monde des échecs. Alors moi je n'y comprends rien, je n'y connais rien, je n'ai pas la patience de jouer, mais je peux vous dire que j'ai regardé la série pratiquement d'un seul coup, tellement elle est prenante, tellement elle est remarquablement à la fois écrite et surtout interprétée, bien évidemment, par la géniale Anya Taylor-Joy. On ne peut pas ne pas parler d'elle, tellement elle est extraordinaire dans la série.
Alors le jeu de la dame diffusé sur Netflix, Kevin Bordy, c'est une œuvre importante pour susciter des vocations.
Ouais, je crois que c'est un tournant pour les échecs, en tout cas en ce début de 21e siècle, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui se sont intéressées à notre jeu après avoir binge-watché cette série sur Netflix, qui montre les échecs sous un angle assez positif. Ça donne envie d'y jouer. Et donc ouais, c'est vraiment un événement important. En tout cas, on verra ce qui se passe de cette hype là qui s'est lancée avec cette série, mais clairement ça a ressuscité un intérêt pour les échecs. Et bah, vous voyez bien, par exemple, maintenant on fait une émission en parlant des échecs. Je ne sais pas si ça aurait été possible sans cette série.
Il y a le livre de Denis Grosdanovic qui m'a donné envie de faire cette émission, en tout cas, et bien sûr le succès planétaire du jeu de la dame. Bernard Werber.
À propos du jeu de la dame, vous voulez que je parle ? Moi, j'ai adoré cette série. Je vais dire, ça montre une chose, c'est que le jeu d'échecs, on parlait tout à l'heure de mathématiques, on parlait de stratégie, mais il faut voir que c'est aussi un lieu artistique. Absolument. C'est-à-dire qu'une partie, ça peut être joli, ça peut être beau, ça peut être une musique. Même quand, tout à l'heure, je disais qu'on gagne, qu'on perde, il peut y avoir à un moment la sensation d'arrêt devant de la beauté, parce que il y a une trouvaille qui a été faite, et à ce moment-là, on s'arrête et on peut avoir des éclats de rire. Parce que c'est un jeu dans lequel il y a peu d'éclats de rire, mais ça, il faut savoir que ça arrive. Ça peut être le sentiment d'émerveillement ou d'admiration devant une pensée auquel on n'aurait pas, enfin, devant un coup auquel on n'aurait pas pensé sinon.
Absolument. Denis Grosdanovic.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et c'est d'ailleurs le cas, c'est pour ça que c'est assez extraordinaire cette série. C'est vrai que non seulement c'est sur les échecs, c'est merveilleux, mais en même temps, la cinématographie est incroyable. Les images sont d'une beauté inouïe, les décors, tout, enfin bon. Et c'est calqué en partie sur Judith Polgar. Et justement, dans mon livre, j'explique que Judith Polgar, quand on regarde ses parties, quelque chose de tout à fait particulier qui se passe. Il faut dire qu'elle s'est élevée jusqu'au rang de 10e mondiale, toute catégorie. Parce que, évidemment, aux échecs, il y a les hommes et les femmes, hein, comme en sport. Et elle joue son style absolument étonnant, parce qu'on n'a pas l'impression, comme les autres joueurs, qu'elle joue avec agressivité. On a plutôt l'impression qu'elle fait une sorte de récital au piano. Et comme si elle jouait du Mozart. Et elle bat ses adversaires avec une espèce de facilité et de grâce, d'autant plus qu'elle est très avantagée. C'est une très jolie fille. Et donc, il y a quelque chose de tout à fait étonnant. Elle introduit un élément féminin et une grâce dans les échecs qui n'existe pas chez les hommes.
Xavier Le Herpeur, est-ce que le jeu de la dame vous a donné envie d'apprendre les échecs?
Non. Non, ça, j'y ai renoncé depuis à peu près 40 ans. Non, il y a des choses, il faut pas s'acharner, Ali, hein, voilà. Je veux dire, il faut passer à autre chose. Je suis passé aux séries, voilà, que j'enchaîne, un tout petit peu comme les parties d'échecs des grands joueurs, mais non.
Et on vous retrouve donc dans une heure en série, samedi à 20h. Le programme?
Ah ben le programme de samedi prochain, ce sera une série documentaire sur Prime, Génération Brute. La chaîne Brute a produit des documentaires sur cette jeune génération militante, alors à la fois féministe, trans, vegan, c'est absolument formidable. Et puis la toute nouvelle série de David A. Kelley, le créateur d'Ally McBeal bien sûr, et cette série s'appelle Big Sky et elle passe sur Star Disney+.
Voilà, vous savez tout. Merci beaucoup mon cher Xavier Le Herpeur. Alors l'héroïne du jeu de la dame évolue dans un univers violemment sexy. À propos de sexisme dans le milieu des échecs, j'aimerais citer le grand maître britannique Nigel Short en 2015 qui dit ceci: les hommes sont câblés pour être meilleurs au jeu que les femmes. Nous devrions accepter avec joie le fait que les hommes possèdent des compétences différentes de celles des femmes qui les rendent plus aptes à jouer aux échecs à un haut niveau. Et là, j'imagine Julia Foyce, notre chroniqueuse, en train de faire un AVC en écoutant cette citation. Denis Grozdanovic, sur le sexisme qui règne, qui peut régner dans...
Oui, mais c'est ancestral, c'est-à-dire que ça vient de l'éducation qui a été toujours patriarcale mais ça peut changer très très vite, et c'est en train de changer, parce que justement, les goals d'échecs actuels, et il y en a beaucoup, des très jolies filles prouvent que c'est faux, et que la chose peut très bien... Et Judith Polgar, la première.
On peut être pas joli et très bien jouer aux échecs.
Oui,
aussi.
Bien sûr. Non, mais non, parce que il y a ce préjugé aussi, vous savez, contre les jolies femmes. Bon.
Bonjour Anna, bienvenue.
Bonjour.
Vous jouez aux échecs donc?
Oui, je joue aux échecs, même si je trouvais que c'était un jeu très très impudique au début, et j'arrivais pas du tout à me lancer, donc je regardais mon ami jouer, et j'ai fini par me lancer moi justement. Parce qu'on fréquentait un bar dans lequel le patron avait des remarques misogynes et il jouait aux échecs. Et donc j'ai joué contre lui et je l'ai battu. Alors j'ai quand même deux fois à le battre. Mais à partir du moment où je l'ai battu, bah, il a arrêté de faire des remarques sexistes à mon égard et c'était assez appréciable.
Qu'est-ce que vous apporte les échecs dans la vie, Anna?
C'est un moment avec moi, c'est un moment avec mon adversaire aussi, où on est en dehors de tout. C'est amusant, parce qu'en fait, il faut trouver l'endroit par lequel passer, il faut trouver ce que l'autre est en train de penser, il faut anticiper, donc ça m'amuse. Enfin, moi, je suis quelqu'un d'assez patient, donc... Ça me plaît.
Merci beaucoup Anna d'être intervenue dans l'émission. Alors Denis Grozdanovic, pour être un grand joueur d'échecs, vous le dites dans votre livre, il faut faire preuve de souplesse d'adaptation, de souplesse d'esprit, de souplesse intellectuelle.
Oui, on peut dire heureux les souples d'esprit. Oui. Et donc, oui, parce que aux échecs, oui, ce que j'ai souvent constaté, un petit maître, il va réfléchir pendant 20 minutes sur un coup, et si une autre possibilité s'immisce dans son cerveau, le travail qu'il aura donné, il veut pas y renoncer. Et donc, il va s'enferrer. Tandis que le grand maître, c'est ça, en regardant les parties, j'ai souvent constaté ça, lui, il va tout de suite changer, et il va partir sur une autre piste.
et en général, ça sera la bonne. Donc, cette souplesse d'esprit est extrêmement importante, et c'est ça qui différencie le très grand joueur du joueur moyen.
Et cette souplesse d'esprit est essentielle pour bien mener sa vie, Bernard Werber. Les grands joueurs d'échecs sont des chats à leur façon.
Oui, ils doivent être souples. C'est vrai que, moi, ce que je trouve formidable dans les échecs, c'est que c'est un jeu égalitaire. Vous parliez tout à l'heure de sexisme, mais un enfant peut battre un adulte. Les hommes et les femmes sont égalité, les riches et les pauvres. En fait, c'est deux esprits purs. Quel que soit votre pays, quel que soit votre statut, vous pouvez battre une autre personne, car c'est une rencontre égalitaire. Et c'est en ça que ce jeu permet à chacun de... Tout à l'heure, votre intervenant parlait, il donnait des cours, visiblement, dans son école à des enfants qui n'étaient pas habitués à faire ça. C'est une manière, je crois, de calmer tout le monde et de créer des ponts de communication entre des êtres qui peut-être communiqueraient difficilement, sinon.
Kevin Bordy.
Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Les échecs, ça crée une belle mixité sociale. On est tous égaux devant un échiquier, et ça, c'est vraiment fantastique. Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit.
Denis Grosdadovitch, votre livre, c'est aussi une réflexion sur le jeu en général. L'esprit du jeu, c'est la gratuité, l'aléatoire, la camaraderie, la jubilation du beau geste, le fair play, bref, le plaisir sous toutes ses formes. Et vous citez l'historien néerlandais Johan Huizinga dans son grand livre « Homo Ludens ». Pour jouer vraiment, l'homme doit redevenir un enfant pendant la durée de son jeu.
Ben oui, c'est très important. D'ailleurs, je recommande à tout le monde de lire ce livre.
Homo Ludens.
Oui, pour moi, c'est le livre, non seulement c'est un sociologue et historien du Moyen-Âge, mais il est aussi philosophe. Et pour moi, c'est le livre de philosophie le plus extraordinaire que j'ai jamais lu. Car il nous apprend à regarder la vie d'une manière tout à fait différente, entre autres sous l'angle ludique. Et ça va très loin, puisque pour lui même, jusque les conflits armés ont un côté ludique, un ludisme martial. Et il nous apprend que justement, par exemple, dans les forêts, les Amérindiens en Amazonie, ça m'a été confirmé quand j'ai suivi un cours d'anthropologie au Collège de France. De Descola.
Philippe Descola.
Ces Amérindiens, ils étaient toujours en guerre. Mais c'était des petites guerres, et c'était il y avait des conflits à peu près tous les 6 mois, et ça faisait seulement un ou deux morts. Et là, ils sortiraient, c'était une convention. Et donc, ils avaient, d'une certaine façon, réussi à juguler, à contrôler l'esprit d'agressivité au cœur de l'homme. Et on sait aussi que les armées, au XVIIe siècle, les généraux étaient toujours en relation. Et une fois certaines positions prises, un peu comme les échecs, on estimait que ça suffisait, il fallait aller. Et nous, avec notre esprit pacifiste à tout craint de notre époque, et via notre la technicité à laquelle nous sommes arrivés, nous avons créé des massacres au nom du pacifisme, des massacres bien plus importants que dans le passé. Et donc ça, c'est une chose que le jeu, c'est Huizinga qui nous apprend ça. Et donc
Bernard Werber.
Je veux dire, chaque jeu a sa philosophie. Tous les jeux n'ont pas la même philosophie. J'essayais de toucher au Go, au jeu de Go, et je peux vous dire que j'ai le sentiment que le jeu de Go, c'est un jeu d'étouffement mutuel, qui est pas du tout aussi satisfaisant qu'aux échecs, parce que les échecs, on voit qu'on prend des pièces, on voit qu'on prend des positions, mais au jeu de Go, on voit rien, et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on s'est fait avoir. Donc, il y a un esprit oriental qu'on peut comprendre par le jeu de Go, et un esprit occidental qu'on peut comprendre par le jeu d'échecs, et ils sont tous les deux très différents.
Alors, le secret des échecs, qui peuvent nous aider dans la vie, se trouve peut-être dans la phrase que j'ai tirée dans votre livre, Denis Grosdanovitch. Dès l'instant où nous franchissons le seuil du labyrinthe des 64 cases, nous pénétrons dans un monde parallèle où les avanies de l'existence ordinaire s'évanouissent comme par enchantement.
Oui, et d'ailleurs, c'est pour ça que je recommanderais de jouer aux échecs aux gens qui ont des problèmes dans la vie, parce que y a pas, pour s'évader, il n'y a pas mieux. On dit que si on arrive chaque jour à s'extirper pendant un quart d'heure de nos préoccupations habituelles, on pratique déjà une forme de yoga. Eh bien, moi, je l'ai toujours fait avec les jeux, et j'ai quand même pratiqué beaucoup de jeux dans ma vie, et aucun n'est aussi puissant dans la circonstance que les échecs.
Et après une grande désillusion amoureuse, les échecs vous ont aidé à surmonter la douleur, ou plutôt à l'éluder.
Oui, j'ai joué sur le mot.
Exactement. Et il s'agit... en quelque sorte d'une fuite-évasion ?
Oui, absolument. Oui, c'est un peu, il y a un scientifique qui s'appelle Laborie qui a écrit Éloge de la fuite.
Henri Laborie.
Et moi, je suis tout à fait partisan, ça peut choquer des gens, mais de l'adage courage, fuyons. Et donc, personnellement, devant les problèmes, j'ai tendance à vouloir m'évanouir. Et les échecs pour ça sont prodigieux.
Bernard Werber.
Oui, il y a la phrase de Napoléon, en amour, la seule victoire, c'est la fuite. on peut le vérifier aussi dans le jeu d'échecs. Non, je dois dire que les échecs m'ont apporté, exactement comme disait Denis, cet effet de méditation, c'est-à-dire on oublie un moment ses problèmes personnels pour être dans des problèmes de pièces d'échecs. Et il y a un autre jeu aussi que j'ai testé qui s'appelle le Yalta, c'est le jeu d'échecs à trois, avec les blancs, les noirs et les rouges. Et c'est un jeu dans lequel on est obligé de faire des alliances, et ça correspond un peu plus au monde des actualités, c'est-à-dire que vous ne jouez pas seul, vous devez faire une alliance contre l'autre. Et tous ces jeux, je crois, nous obligent à nous surpasser, donc c'est intéressant.
Kevin Bordy, un mot de conclusion sur les échecs qui peuvent nous rendre heureux et éluder certaines échecs, douleurs.
Ouais, ça permet de créer un certain isolement, de se retrouver seul face à un autre monde. On dit qu'il se passe autant de choses sur un échiquier que sur toutes les mers du monde, et ça permet de s'ouvrir un nouvel univers. Pour moi, je vois les échecs comme un art martial parce que c'est un combat contre quelqu'un d'autre, mais c'est aussi un art et ça peut évoquer des émotions. Comme certains ont des émotions devant des tableaux ou des sculptures, moi j'en ai devant des belles combinaisons d'échecs. Et donc c'est une manière de s'isoler face en dehors du monde, face à une beauté que seuls les initiés peuvent comprendre.
Je voudrais demander à Kevin s'il accepterait un jour de jouer une partie contre moi.
Pourquoi pas.
Kevin Bordy, juste en quelques mots, pour ceux qui veulent se mettre au jeu d'échecs, qui n'y connaissent strictement rien, un conseil, un livre, un site comment on s'y prend si on veut s'y mettre là ?
Allez sur n'importe quel site d'échecs, chess.com, LeeChess ou Chess24, connectez-vous et vous allez avoir des tutoriels avec les règles du jeu, et c'est assez simple de les apprendre, et vous pouvez très rapidement jouer des parties en ligne sur une plateforme et jouer contre des adversaires, que ce soit des adversaires humains ou contre des ordinateurs si vous êtes un petit peu timide.
Merci beaucoup Denis Grosdanovitch, je recommande vraiment La vie rêvée du joueur d'échecs, c'est admirablement bien écrit. Merci Bernard Werber d'être venu en toute gratuité, sans promotion particulière.
Pour la passion du jeu d'échecs.
Et merci Kevin Bordy, votre chaîne YouTube s'appelle Blitz Stream. Dans un instant, passons genre, la chronique de Julia Foyce qui s'intéresse aux fausses plaintes pour viol. Et en attendant, on écoute Pierce Faccini.
Spider ship at the harbor gate. So the mooring, when the anchor dropped with the iron weight. Where is a will, is a wanting? Where is a heart, there's something? Where is a will, is a wanting? A hand to hope, a hope to hold, to drag forth the darkness from you. Darkness from you. Ship is leaving when the bell will toll, it'll toll for you. No denying when the log is lost, it can't be true. The darkness from you.
Pi- Pierce Faccini interprétait Foghorn Calling.
Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Un garçon ou une fille?
Il y a une femme là-dessous.
Non.
Alors, qu'est-ce que c'est?
C'est un homme.
T'as dit à tout le monde que t'es un garçon? T'as menti?
Bah oui, 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 oui. Mais moi j'ai des poils qui me poussent sous le maquillage et j'ai un câble droit de fille, voilà.
Bonjour Julia Foyce.
Bonjour.
Tout va bien?
Écoutez, je suis flegme ce matin.
Gérard Depardieu, Dominique Boutonnat, Richard Berry, PPDA, Patrick Poivre d'Arvor. Les affaires de viol explosent, les noms pleuvent, la parole se libère, dit-on. Pour autant, pour vous, vous demandez si on les entend vraiment?
J'adorerais vous dire que oui, évidemment, mais non. En fait, toujours pas, parce que quoi qu'une victime dise, ça ne va pas, non, fallait pas, pas comme ça, pas là, pas à ce moment-là. Elles ne donnent pas de nom, elles sont lâches, elles en balancent, c'est dégueulasse. Sur Twitter, n'en parlons pas, on est dans un état de droit, se faire justice, mais ça va pas. Non, ces filles-là doivent porter plainte et aller au commissariat, mais ça non plus, ça ne passe pas. C'est un réflexe, vous avez vu? Faites le test un jour, autour de vous, racontez l'histoire de cette fille, n'importe laquelle, qui porte plainte contre n'importe qui. Réaction? Elle ment. Immédiatement, systématiquement, sans même oser entrouvrir la porte de la pensée à toute autre hypothèse, se dire que, après tout, malgré tout, peut-être que... Non, elle ment. Et par vengeance, selon un tiers des Français... Quand ils sont un quart à penser qu'elle accuse sans fondement pour gagner de l'argent et pour faire son intéressante. C'est un sondage Ipsos de 2016, mais c'est vieux comme le monde, vieux comme les textes sacrés sur lesquels il a construit son histoire collective. Histoire faite de manipulatrices, de tentatrices, d'affabulatrices, calamité de l'humanité, à cause de qui, inexorablement, l'homme et lui tombés dans le péché, à son corps défendant, évidemment. Vous ajoutez ces féministes, ces hystériques, ces mal baisés qui ont pour sinistre projet, même pas caché, même pas secret, de tous les émasculer. Et ça vous donne cette surdité généraliser ce déni de réalité. Ali, attention, question. Et si, je dis bien, et si une femme qui portait plainte pour viol le faisait parce que... Ben parce qu'elle avait été violée. Je sais, la machine à fantasmes, c'est plus rigolo, c'est comme les complots, mais il y a un truc qu'on appelle des faits.
Et ils nous parviennent quand on les interroge.
Première question, est-ce que le viol, ça rapporte? Eh bien Ali, sachant que la procédure peut coûter à la plaignante jusqu'à 10 000 euros rien qu'en frais d'avocat, pour ne lui en rapporter que 15 000 dans le meilleur des cas, et c'est très rare. Sachant que pour cela, il lui faudra aussi dépenser une énergie et un temps fou en expertise médicale, psychologique, juridique, que sais-je, pour 3 ans d'instruction en moyenne. Sachant que ces 3 ans peuvent aussi se retourner contre elle et que, attaquée en diffamation, elle risquerait alors de devoir verser plusieurs milliers d'euros minimum à celui qu'elle accuse de viol, ça s'appelle un investissement hasardeux, pour ne pas dire complètement foireux. Acheter dans le neuf, franchement, c'est mieux. Quant à la notoriété, comment dire, à titre personnel, je vous recommanderais plutôt le pain fait maison que la plainte pour viol. Hein. Ouais, on vit dans un monde où pour une vague photo de croûte, vous êtes une star sur les réseaux sociaux. Or, c'est dans ce même monde que, lorsque vous dites que vous avez été victime de viol, par un tour de passe-passe absolument prodigieux, vous vous retrouvez, vous, sur le banc des accusés. C'est votre tenue qu'on va juger, votre attitude qu'on va scruter. Mais t'étais où et à quelle heure? Et t'es sûr que tu l'as pas cherché? Sondage Ipsos, toujours, dans 30 à 40% des cas, les Français pensent que la victime est co-responsable de ce qui lui est arrivé. Et là, Ali, on va pas franchement la féliciter. La vérité, c'est qu'elle va en prendre plein la gueule, qu'elle va devoir se justifier et préciser, ne pas flancher et raconter 10 fois, 100 fois, devant des proches comme des jurés, ce qu'on lui a fait, ne pas se tromper, et chaque fois, elle va replonger dans l'horreur et dans la violence de ce qu'on lui a infligé, tous les détails, ne rien zapper, ses larmes, ne pas les ravaler, une victime froide, on n'aime pas ça, mais faut pas voir à trop pleurer, des sanglots, ça met mal à l'aise, faut de la tenue, de la dignité, au bout du compte, rien d'assuré. Aujourd'hui, en France, seuls 1 à 2% des viols sont condamnés aux assises, ça c'est la vérité, des coupables en liberté, on en a une palanquée. Alors oui, parfois, elles mentent, très exactement, dans 2 à 8% des cas, les accusations de viol sont fausses, selon les très rares études dont on dispose sur le sujet. Ce qui veut dire que plus de 9 fois sur 10, quand une victime dit qu'elle a été violée, elle dit surtout la vérité. Ce qui veut dire que si l'accusé a évidemment droit à sa présomption d'innocence, la plaignante, elle, devrait être présumée crédible. Et ça, ça veut dire une chose, une seule, prendre le temps de l'écouter vraiment.
Merci beaucoup Julia Foyce. On peut évidemment réagir à votre chronique sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Le menu de l'émission Passons Genre demain à 20h.
Alors, on reçoit Maître Claude Katz, avocat honoraire, qui a été l'un des premiers à assister des victimes de viol, et ce, dans les années 80-90. Il est fabuleux, je ne peux pas vous dire mieux.
Merci Julia Foyce. Demain, Grand Bien Vous Fasse, loisir.